entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Gardien de mon frère. J'ai le plaisir ce soir d'être avec Madame Isabelle Gandré, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes de la préfecture de Côte d'Or. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur.
Nous allons ce soir parler d'un sujet complexe mais très important, les violences conjugales. Mmh. Et je vais partir d'un événement clé dans l'histoire récente autour de cette problématique, le Grenelle des violences conjugales de 2019, et vous demander un petit peu, depuis cet événement, en le rappelant peut-être rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, où nous en sommes dans notre pays.
Alors, le Grenelle des violences conjugales a été lancé effectivement le 3 septembre 2019 par la ministre Marlène Schiappa. L'objectif, c'était de faire sortir de l'intimité des appartements, des salons, des cuisines, mais aussi des lieux de travail, etc., les violences conjugales. C'était aussi l'idée donc, que la honte change de camp, comme on dit. L'idée, c'était aussi de rassembler tous les professionnels qui pouvaient venir en soutien et en aide aux victimes de violences conjugales et qui pouvaient être aussi en repérage de ces violences. Donc, c'était mettre autour de la table tous les professionnels, tous les ministères, tous les services publics, toutes les associations, tout le monde, pour travailler en commun.
Donc il y avait un diagnostic qui indiquait que les choses n'avançaient pas, n'étaient pas suffisamment rapides et efficaces pour protéger les femmes, puisque c'est majoritairement des femmes qui sont victimes. C'était un peu le constat qui était fait.
Oui, le constat, c'était qu'il y avait une partie des gens qui travaillaient déjà ensemble, mais peut-être pas partout. Et puis peut-être aussi que l'idée, c'était de mobiliser l'ensemble de la société. D'ailleurs, suite au Grenelle, on a eu des spots dans les magasins. Moi, je me souviens que dans un magasin du centre-ville de Dijon, un grand magasin, on entendait des messages de prévention, d'alerte. On a eu aussi, vous savez, sur les baguettes de pain.
Effectivement.
Voilà. On a eu des spots du 3919, hein, qui est un numéro porté par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, financée par l'État, mais portée par cette association. Et donc, l'idée, c'était aussi de faire sortir le Grenelle, c'était faire sortir cette thématique, qu'on en parle.
Oui, parce qu'on sait, c'est un élément clé. Malheureusement, l'évolution est quand même assez lente. Il y a énormément de victimes, énormément de faits de violence conjugale, mais il y a peu de plaintes et peu de plaintes qui vont au bout. C'était en tout cas une des questions qui étaient posées lors du Grenelle, c'est ça?
C'est ça, c'est qu'on se disait que toutes les victimes ne poussaient pas la porte. Il y avait besoin de libérer la parole, mais surtout de libérer aussi l'écoute. C'est-à-dire de faire prendre conscience à ceux qui pouvaient être à l'écoute de ces victimes qu'ils ne voyaient pas forcément ou qu'ils n'écoutaient pas bien ou pas assez activement, comme on dit aujourd'hui, l'écoute active. Donc c'était ça aussi l'idée.
C'est sûr que porter plainte dans un commissariat il y a encore quelques années, c'était quand même difficile. Et la majorité des accueillants étant des hommes, ils n'étaient pas tous très sensibles, voire pire, à cette problématique, en tout cas à la démarche faite par telle ou telle femme.
C'est vrai qu'on a une évolution hein, dans la société sur les violences faites aux femmes. Le Grenelle, il faut le resituer, il arrive juste après MeToo 2017. Moi, tout j'ai pris mes fonctions juste au début de MeToo, au 1er janvier 2017, et moi, je mesure par rapport à mes collègues la différence d'appropriation de ces violences faites aux femmes par le monde des médias. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'en commissariat. Le commissariat, c'est le reflet de la société. Or, si on voit le traitement médiatique des violences faites aux femmes jusqu'à 2017 et encore jusqu'à 2019, on parlait encore de crimes passionnels.
Tout à fait.
On ne parlait pas encore de féminicides. Sur les violences faites aux femmes, on écoutait, mais on mettait en doute les paroles. Pourquoi maintenant? Pourquoi dénoncer maintenant? Pourquoi ne pas être partie avant? Donc il y avait quand même la société, le commissariat de police, le gendarme, le policier, l'enseignant, l'enseignante, la policière, etc. Ce sont les reflets de la société, ce sont des humains avant tout. Et quand la société évolue, ils évoluent aussi, mais ils sont le reflet. Donc c'était, il fallait faire changer l'ensemble de la société.
Vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est la question de la séparation, qui est un moment dangereux, enfin qui peut être dangereux dans une partie des relations de violence dans un couple, puisque souvent les personnes, les femmes, font plusieurs allers-retours avant de quitter vraiment leur compagnon ou leur mari.
6 à 7 allers-retours apparemment, d'accord, dans la statistique.
Donc ça, je crois que c'est compris aujourd'hui comme quelque chose de normal dans un processus d'émancipation, de rupture. Mmh. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on était beaucoup dans le jugement de valeur, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs.
Oui.
Y compris dans le monde du travail social, où on pouvait entendre, il y a une dizaine d'années, encore des jugements de valeur sur des femmes qui allaient en centre d'hébergement et qui repartaient au bout de 3 jours chez leur mari.
Le phénomène d'emprise était peu connu et le Grenelle est venu aussi poser des mots sur ce phénomène et des explications.
Vous parlez d'une évolution des institutions, les associations, certaines professions, mais est-ce que dans l'ensemble de la société, même si les choses évoluent, on a véritablement un mouvement profond? Qu'en pensez-vous? Parce que certains disent qu'en Espagne, par exemple, il y a un mouvement, mais vraiment intime, profond dans chaque famille, dans l'ensemble des couches de la société, ce qui ne serait pas la même chose en France. Comme si en France, il fallait que ça vienne par le haut avant que le reste de la société évolue. En Espagne, il semblerait qu'il y a un mouvement de fond. Est-ce que cette comparaison a un sens pour vous?
Alors, c'est difficile de comparer, moi. C'est vrai que j'entends les associations dire en Espagne, il y a ceci, il y a cela. Pareil au Québec, si on peut citer aussi le Québec. Hein.
Tout à fait.
Mais on a des systèmes législatifs différents. Et je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Des codes civils, des codes pénaux qui ne sont pas les mêmes. Et donc, je pense que la société, elle est imprégnée aussi de ces textes de loi. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes évolutions en même temps. Et effectivement, on est des sociétés, pourtant, je pense qu'ils sont éduqués à peu près de la même manière. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi ça va plus vite d'un côté que de l'autre? Je pense quand même que la question de la loi, des législations, du millefeuille administratif français, fait qu'on n'avance pas aux mêmes vitesses. Moi, j'ai quand même ce sentiment-là.
Alors avant de revenir sur la prévention, vous avez évoqué le modèle québécois sur lequel on va revenir. Le Grenelle 2019 a permis notamment qu'on s'occupe des auteurs de violences, hommes et femmes, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des femmes auteurs de violences, qu'ils sont structurellement.
Je ne parle pas
des femmes qui réagissent et qui vont frapper ou même tuer leur mari parce qu'elles ont vécu l'enfer. Là, il s'est passé quelque chose aussi de nouveau. Oui. Madame Schiappa a entendu le monde professionnel qui travaillait avec les auteurs, aussi bien en lien avec la justice que dans le travail thérapeutique. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous évoluer les choses?
Alors, c'est vrai que le Grenelle, il est venu mettre aussi autour de la table les professionnels qui accompagnaient les auteurs de violences conjugales. Et c'est à ce contact-là, notamment du ministère de la Justice aussi, que Madame Schiappa s'est rendue compte avec ceux qui étaient autour de la table que si on ne suivait pas les auteurs, on ne pouvait pas mettre en sécurité la victime. Ne pas suivre l'auteur, c'est la mettre en insécurité. Et c'est ça, on s'est rendu compte de ça, d'où le projet qui a vu le jour avec le Grenelle de la création des centres auteurs.
C'est ça, oui, les centres auteurs d'accueil, des personnes auteurs de violences conjugales. Sachant qu'on restait quand même sur une idée, enfin, le plus important c'est d'empêcher la récidive et d'agir très vite.
C'est ça.
En fait de structurer les relations entre les différents acteurs dans la rapidité afin que, pris sur le fait ou récupéré juste après, la personne violente puisse être arrêtée et on puisse lui proposer, même en attendant le jugement, une solution d'hébergement spécifique.
C'est ça.
Avec déjà un travail au moins pour qu'il sorte du déni.
Oui.
Quitte à ce qu'il aille en prison, d'ailleurs, puisque l'acte étant commis, les gens qui travaillent sur l'auteur de violence ne se mettent pas en contradiction avec la loi. Ils accompagnent la loi, évidemment.
Tout à fait. Il y a effectivement, dans l'idée des centres auteurs, qui a été mis en même temps en place, c'est le stage de responsabilisation qui est porté par ces centres. L'idée, c'est effectivement d'accompagner cette prise de conscience, de l'auteur, comme on accompagne la prise de conscience de la victime. Beaucoup de victimes n'ont pas conscience, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles mettent un temps à faire les démarches, d'être victimes de violence. Pour elles, c'est de l'ordre presque du normal, et il y a une goutte d'eau qui va les faire basculer. Du côté de l'auteur, c'est pareil. Prendre conscience qu'on est auteur, c'est comme de prendre conscience qu'on a une maladie ou quelque chose qu'il faut traiter. Donc c'est compliqué. Et ce stage, il a pour vocation à faire sortir du déni, à accompagner, à mettre une petite graine pour que l'accompagnement thérapeutique continue. Et l'idée, c'est peut-être aussi que socialement, on puisse accompagner ces auteurs.
Alors c'est vrai qu'il y a un pari qui est fait par ces associations, ces acteurs, qui s'inspirent beaucoup d'ailleurs du Québec et de la Belgique, mais surtout du Canada, qui est qu'une partie des auteurs, une partie importante, enfin la majorité, serait accessible à la thérapie et pourrait, au bout de quelques années, parce que c'est un travail long, exigeant, sortir de ce mode de relation avec les femmes notamment quand il s'agit des hommes.
Oui, l'idée c'est de travailler sur qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont construits dans la violence. Comme par exemple, on sait aussi que certaines victimes se sont construites dans leur enfance, dans de la violence aussi. En tout cas, toutes n'ont pas vécu de la violence dans leur enfance, mais on se rend compte que certaines ont connu des épisodes venant abîmer leur estime d'elles-mêmes ou carrément, effectivement, des violences déjà petites, je dirais intrafamiliales, ou déjà dans des relations de couple avant de se mettre en concubinage ou autre.
C'est vrai qu'il y a un sujet qui était abordé, mais je crois qu'il n'a pas été travaillé énormément à ce moment-là au Grenelle, c'est la question des enfants qui sont considérés aujourd'hui comme des co-victimes.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cet aspect-là du dossier?
Alors, oui, on en est aux prémices. C'est vrai que c'est encore quelque chose dans le Grenelle, dans les suites du Grenelle, là où on a encore des choses à faire évoluer, mais on y a déjà quand même beaucoup. Au niveau du ministère de la Justice, il y a des pôles vifs qui ont été mis en place, qui prennent en compte cette dimension, puisque le juge des enfants, le juge des affaires familiales, le parquet sont ensemble dans ce pôle. Et sur Dijon, ils fonctionnent très très bien. Donc je dirais qu'on est encore dans le début sur la prise en charge des auteurs, sur le parcours des auteurs et sur la prise en charge des enfants et la prise en charge psychologique des enfants, c'est-à-dire du trauma jusqu'à aussi la non-reproduction de cette violence.
Est-ce qu'il y a des outils qui permettent aux forces de l'ordre ou à la justice de faire en sorte que l'enfant n'aille pas chez son parent violent? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Où en sommes-nous sur cette question-là qui, en tout cas, interroge beaucoup l'ensemble des citoyens français?
Alors, pendant effectivement longtemps, les associations se sont battues pour dire que le parent violent, notamment souvent, on va dire, dans 80% des cas, puisqu'on a que... Enfin, on a que, c'est pas le que qu'il faut utiliser, mais 17% d'hommes victimes de violence. Le parent violent n'est pas un bon parent, au sens s'il n'est pas traité. Et donc, effectivement, un père violent, pour les associations qui accompagnent les victimes femmes, n'est pas un bon père. Et donc, il ne devrait pas avoir à continuer à avoir une autorité parentale. Le souci, c'est que, je reviens sur le droit français, l'autorité parentale dans un couple, elle est partagée. La remettre en cause, il faut quand même des preuves solides de défaillance du père. Et jusqu'à maintenant, frapper son épouse, frapper son époux, être violent économiquement, psychologiquement, toutes les violences qui constituent la violence conjugale, c'était pas... Ça ne remettait pas forcément en cause l'autorité parentale. D'ailleurs, ça fait que depuis le Grenelle que les auteurs de violences qui ont tué leur conjoint sont déchus de l'autorité parentale.
C'était pas le cas avant.
C'était pas le cas avant.
D'accord. Oui, donc il y a encore beaucoup de travail pour faire évoluer peut-être le droit.
Il y a tout un droit qui évolue suite au Grenelle. Il y a une grosse mobilisation de la justice sur ces questions-là. Il y a aussi toute l'ordonnance de protection, hein, qui est un dispositif un dispositif civil, hein, donc on est avant le pénal, où on peut protéger la personne victime de violence et lui donner les droits parentaux et les enlever à l'autre personne pendant un temps donné le temps de cette ordonnance.
Alors, vous sembliez être assez optimiste sur l'évolution du fonctionnement des institutions avec le monde associatif, avec les représentants des citoyens. Il y a un certain nombre de sondages qui sortent actuellement, des sondages très sérieux, qui montrent qu'une partie de la jeunesse, des moins de 35 ans, ont une vision des relations hommes-femmes qui ne sont pas du tout celles qui paraissent être dominantes aujourd'hui en termes de droit, en termes de civilité, en termes de respect et même d'évolution complète hein, des mentalités. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on disait qu'il semblerait qu'il n'y a pas un mouvement de fond et en même temps, on voit plutôt des régressions dans certains pans de la jeunesse qui inquiète en tout cas un certain nombre d'acteurs de cette problématique.
Oui, je pense que vous faites référence par exemple à des mouvements où on parle, alors j'ai plus le terme anglais, mais il m'échappe, mais des femmes au foyer, fières de l'être et le revendiquant.
Et puis des jeunes gens moins de 35 ans qui considèrent
oui,
que
voilà,
chacun a sa place.
Chacun sa place, que le monde de la maison, c'est forcément oui. Féminin et rattaché à la femme.
Oui, puis que quelques tensions et,
voilà.
une gifle, c'est pas grave.
Voilà.
Ça fait partie de la régulation des rapports humains voilà. Dans la difficulté de la relation conjugale.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je vois quand même une évolution. De dénoncer, enfin pas d'écoute, de repérage. On voit quand même beaucoup de jeunes qui dénoncent aujourd'hui des violences très tôt dans les relations de couple. Et donc j'ose espérer aussi que c'est des amis, c'est l'entourage de ces personnes qui les poussent à porter plainte ou à dénoncer ou à dire que c'est pas normal. Je pense quand même que le travail fait par les associations, par tous les professionnels, par le Grenelle, permet quand même à des jeunes gens aujourd'hui de se dire que ça, c'est pas normal. Que ces situations, je pense au violentomètre, qui est diffusé pas mal dans les établissements scolaires.
Dites peut-être un mot sur le violentomètre.
Alors, le violentomètre, c'est une initiative de l'Île-de-France, de la ville de Paris, en lien avec le centre Hubertine Auclair. Ça permet de se situer. Donc, vous avez une partie verte où, dans la relation, tout se passe bien. Et puis, plus vous allez vers le rouge, c'est-à-dire, il m'empêche de voir, il ou elle m'empêche de voir mes amis, il demande où je suis. Il y a plein de questions où, si on se rend compte que dans notre relation, c'est ça, et ben c'est qu'on est quelque part, on n'est pas dans une relation saine. Et donc ça, j'ose espérer que ça circule. Mais on ne peut pas empêcher des jeunes dans notre société actuelle de penser quand même que le monde de la maison est rattaché à la femme, que chacun a sa place, que la violence fait partie des relations. Parce que quand on regarde les films, quand on regarde les séries, etc., dans les relations de couple, on voit de la violence. Donc on peut se dire,
ça fait partie du lot. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, en plus, c'est la sexualité... Et abordé quand même majoritairement sous l'angle de la pornographie et de la violence, très clairement.
Oui.
On a la chance à Radio Chalom de travailler dans des collèges et des lycées. On a parfois des échanges à la marge, hein, c'est pas du tout notre cœur d'intervention. Mais les jeunes nous parlent des réseaux sociaux et nous parlent notamment de cette problématique.
C'est vrai. C'est vrai que sur la sexualité, on a un accès beaucoup plus facilité à la sexualité pornographique. J'ai 48 ans. Il y a plus de 20 ans de ça, effectivement, on n'avait pas les réseaux sociaux. Ça n'empêchait pas les jeunes de trouver des magazines, de s'échanger des photos, des morceaux de magazines. Mais c'était beaucoup moins facile que de taper, effectivement, sur Internet et d'avoir des images comme aujourd'hui.
Alors, si on résume en quelques mots avant de conclure cette émission, les apports du Grenelle et la situation aujourd'hui, comment vous le présenteriez à nos auditeurs, à nos auditrices ?
Je me dis que c'est le début. C'est le début, c'est un terreau. Et il faut continuer à l'entretenir pour faire grandir les petites graines qu'on a plantées pendant ce Grenelle. Qu'on n'est qu'au début, hein, les associations, je pense à Solidarité Femmes, le Centre d'information aux droits des femmes et des familles à France Victimes, qui alerte depuis très longtemps sur la face cachée de l'iceberg. On ne voit qu'une partie. Et on n'est qu'au début de cette partie. Et effectivement, on en a un petit peu parlé ensemble. Il y a toute la partie prévention, éducation qu'il va falloir mettre en place. Mais là, c'est une vraie révolution culturelle.
Alors ça, ce serait le sujet d'une autre émission, je voilà. pense, qu'il faudra la faire autour de la prévention
oui.
et probablement de la question fondamentale de ce qu'est la relation entre les filles et les garçons, notamment oui. Petits et au moment de la croissance.
Comment on construit les petits garçons et les petites filles et comment ça construit nos relations.
Ça, c'est un sujet en soi. Je rappelle donc que j'étais avec Mme Isabelle Gandré, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes de Côte d'Or. Merci beaucoup, Mme Gandré.
Merci, monsieur.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.